Bonjour. Donc je vais en 15 minutes, je voudrais essayer de croiser en fait deux types de disciplines, deux types d'objets, à savoir l'environnement et l'armement, et voir comment en fait le croisement ou ces deux disciplines peuvent interréagir. Alors, bien entendu, c'est l'économie de l'environnement et même le droit de l'environnement qui sont de nature ou qui doivent faire évoluer l'économie de l'armement, davantage que l'inverse. Alors, cela étant, l'implémentation de l'environnement dans les programmes d'armement ne pourra se faire qu'en comprenant bien les spécificités de la défense. C'est un premier point que je voudrais rapidement rappeler ici. Ces spécificités de la défense en la matière, ça commence par l'armement, qui est l'outil matériel de la défense. Et là, vous avez une première contrainte en matière de défense, qui est la contraction des budgets pour ce qui concerne les pays européens. Et ce qui rend compliqué l'idée qu'il puisse y avoir des surcoûts environnementaux. Donc là, on a éventuellement une première barrière. Mais avec ces budgets, vous avez aussi une opportunité, ou les ministères de la Défense ont une opportunité, à savoir leur budget d'investissement, le budget d'acquisition, puisque c'est généralement, en tout cas si on prend pour les pays développés, les grands pays développés, c'est le premier budget d'investissement dans l'ordre des budgets d'investissement de l'État. Donc il existe un fort effet de levier possible si ce budget d'investissement se verdissait un peu. La deuxième contrainte pour prendre en compte l'environnement dans les programmes d'armement est le fait que la défense et l'armement sont conçus pour détruire, s'il le faut, et en tout cas contraindre et compliquer la vie des adversaires, dans les limites juridiques du droit dans la guerre. Donc, cela signifie qu'un armement se mesure toujours à l'aune du gain opérationnel, de son efficacité opérationnelle. Et donc, vous aurez du mal à faire accepter une perte d'efficacité opérationnelle pour un gain environnemental. En tout cas, l'arbitrage ne peut pas vraiment se situer dans cette alternative, sauf à n'aboutir à rien du tout, ou généralement à un dialogue de sourds. Cela nous amène à une dernière caractéristique de base pour l'armement, qui sont ses spécificités d'usage et d'utilisation. Il s'agit surtout de présenter en fait éventuellement les contraintes précédentes dans un autre contexte, et je dirais à trois instants, avec trois temps différents. Vous avez AT moins 5, voire 10 ans. Là, on se place dans l'optique de la conception. C'est-à-dire que quand un système d'armes entre en service, sa conception a probablement débuté 5, voire 6, ou quelquefois 10 ans auparavant. Donc ça veut dire que dans la conception, il faut réfléchir à intégrer les contraintes environnementales qui ne sont pas encore exprimées parfois scientifiquement, socialement ou juridiquement. Donc évidemment, concevoir un armement est plus long qu'une machine à laver. AT0, c'est-à-dire lors de l'utilisation, il existe des contraintes d'emploi particulières, en temps extrême, selon les conditions atmosphériques, qui font que certains matériaux, notamment de jointure, de soudure, y compris de peinture, sont parfois difficilement remplaçables, difficilement, mais pas de manière impossible. Le tout est en fait de trouver des matériaux de substitution à des conditions financières acceptables. Enfin, AT plus un an et jusqu'à 40 ans. C'est-à-dire, tout ça pour dire qu'un système d'armes, un armement, a une durée de vie très longue qui pose le problème des obsolescences et au final du démantèlement. Donc, sur cette durée de vie extrêmement longue d'un système d'armes, comment gérer des contraintes environnementales parfois non anticipées et parfois même non connues au moment de la conception. Et en réalité, ces trois temps reposent sur une réflexion bien connue dans la défense, celle de la gestion du cycle de vie et du point de vue budgétaire et financier, celle du coût de possession. D'une manière un peu ironique, on pourrait presque dire que l'armement, en fait, pour les militaires, l'armement est un bien durable. Sa durée de vie peut aller jusqu'à 40 à 50 ans, et généralement va jusqu'à 50 ans si vous incluez le temps de conception, la R&D. Mais alors, cette gestion du cycle de vie, selon moi, c'est en fait la porte d'entrée pour la prise en compte de l'environnement dans les opérations d'armement, opérations ou programmes d'armement. Alors, c'est quoi, en fait, cette gestion en cycle de vie et ce qu'elle induit, le coût de possession global ? Elle correspond aux différentes phases d'un armement, aux différentes phases et aux différents inputs et outputs d'un armement. Donc, vous commencez par des composants et des ressources naturelles. Vous avez ensuite la production, au sein de laquelle il faut, à mon avis, énormément distinguer entre la production des sous-systèmes et l'assemblage final. Vous avez l'acquisition proprement dite, vous avez l'utilisation qui implique la maintenance et parfois une rénovation à mi-vie, et enfin la démilitarisation et le démantèlement. Alors notez que ce n'est pas suffisant pour aller jusqu'au coût, au coût global de possession, puisque pour cela il faut ajouter les opérations de recherche et développement. Donc vous êtes obligé, pour essayer d'intégrer l'environnement, d'avoir une décomposition chronologique de la vie d'un armement, afin de mesurer l'impact environnemental d'abord, et ensuite les possibilités de réduire cet impact, et ou de mieux internaliser les coûts environnementaux. Donc il faut avoir une approche par la structure des coûts. Alors, tout cela, pour la défense, n'est pas nouveau, la gestion en cycle de vie et la notion de coût global de possession, mais il est vrai que ce n'est pas appliqué de manière systématique. Et on pourrait dire que si la problématique de la prise en compte de l'environnement, d'ailleurs, pouvait faire avancer sur cette question des coûts de possession, ça serait déjà aussi une bonne chose. Je pense que les deux, on devrait pouvoir avoir une convergence sur ces deux idées. Alors ensuite, une fois que vous avez établi une sorte de décomposition des coûts, il vous faut évaluer en fait le coût des différentes phases. Alors d'abord en soi, et ensuite selon les impacts et coûts environnementaux. Là, je voudrais vous citer quelques exemples, en fait, quelques ordres de grandeur. Pour un navire de surface, 40% du coût global de possession correspond à la phase de R&D, de production et d'acquisition. Et ensuite, les 60 autres pourcents du coût global de possession correspondent à la phase d'utilisation, de maintenance et de démilitarisation. Là, je vous cite qu'un exemple en matière de navire de surface. Pour les hélicoptères, vous aurez 20% du coût global de possession porté sur l'acquisition et le reste, 80%, qui porte sur l'utilisation et la démilitarisation. Donc ce sont là des ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête et qu'il faut essayer d'approfondir pour ensuite aboutir à un calcul des coûts environnementaux selon ces différentes phases. Alors si on veut aller assez vite, généralement, dans les études que j'ai pu voir dans la bibliographie, c'est la phase d'utilisation qui est la plus coûteuse en matière d'environnement. Vous pensez au carburant, à la maintenance, à la peinture, y compris au coût de transport. Dans le cadre de la phase d'utilisation et de démantèlement d'un avion de combat, les quelques études qu'on peut voir montrent qu'entre 1 et 2% de cette phase, du coût de cette phase, donc utilisation et démantèlement, sont constitués par des coûts environnementaux, de sécurité et de santé professionnelle. Alors bien sûr, tous ces pourcentages sont à prendre vraiment avec beaucoup, beaucoup de précautions. On n'a pas suffisamment, en fait, encore d'études précises et totalement comparables. Mais c'est, selon moi, le type de démarche, en fait, en économie qu'on doit essayer de faire et qu'à ma connaissance, un certain nombre de ministères de la Défense pratiquent. Donc, pour finir, je voudrais vous donner quelques perspectives pour synthétiser un peu toute cette question d'économie de la Défense, économie de l'armement. En un, ce que je viens de dire, il est impossible pour le moment de donner des coûts en euros ou même en pourcentage de l'environnement dans un programme d'armement. C'est encore très, très compliqué. En deux, chaque programme d'armement sera spécifique quant à l'intégration de l'armement, de l'environnement, pardon. S'il s'agit d'un bien civil militarisé, s'il s'agit d'un bien acheté sur étagère ou développé de manière spécifique. En 3, ça implique des évolutions de modèles de comptabilité et de gestion budgétaire pour permettre l'intégration de l'environnement. Donc c'est là-dessus, je pense que la défense ne part pas de rien avec l'idée de cycle de vie et de la gestion en temps long. En 4, ça nécessite de prendre en compte l'environnement dès le début d'un programme. C'est ce qu'on appelle de manière classique désormais l'éco-conception. Ça va jusqu'à l'idée, ça fait quoi pour l'environnement le système d'armes auquel je pense et qu'il faudra produire, utiliser et démanteler? Quelles seront les pénalités éventuelles? Les surcoûts de mise en conformité possible selon l'évolution de la réglementation environnementale? Et pourquoi pas, c'est désormais pris en compte, les impossibilités d'utilisation d'un tel système à moyen et long terme. Donc l'éco-conception doit intégrer absolument tout cela. Enfin, le dernier point, ça nécessite un partenariat et un échange d'informations entre industriels eux-mêmes et notamment dans le cadre de la distinction entre assemblage final et sous-traitance ou fournisseur. Donc un dialogue entre les industriels eux-mêmes pour échanger de l'information et un dialogue entre les industriels et l'État client pour, entre autres, savoir qui portera les surcoûts, comment on pourra les déterminer. Donc, comme toujours, pour finir, en fait, si je fais un tour de la bibliographie concernant les difficultés d'intégration de l'environnement dans les programmes d'armement, vous retombez systématiquement sur le fait que c'est effectivement l'absence d'échange d'informations pertinentes qui est, entre autres, le premier frein pour pouvoir avoir une jonction de ces deux disciplines ou de ces deux objets, pour avoir une jonction assez pertinente. Je vous remercie.